Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin.
J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un plasticien. Comme vous le savez, dans cette émission, tous mes invités ont des choix à faire en amont de l'émission, et ils vont choisir des photos, des objets, des senteurs et des musiques. Thierry-Émile Serle est aussi dans ce cas-là, bien entendu, et en tant que plasticien, eh bien, vous allez voir qu'il a fait des choix qui sont tout à fait hors du commun. Thierry-Émile, bonjour.
Bonjour Claire-Lise.
Merci d'être notre invité aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous recevoir avec tous ces éléments que vous avez choisis. Moi, j'ai très envie que nous partions en voyage tout de suite. Et avec ce premier élément que vous avez choisi, il s'agit d'une photo issue d'un film de Jean Rouch, avec cette image d'un homme en train de fabriquer du poison, un sorcier.
Oui.
Alors on va peut-être décrire cet arrêt sur image.
Très bien. Il s'agit d'un cas particulier en fait, où Jean Rouch a filmé ce qu'on appelle la chasse au lion à l'arc. Et dans ce processus, où il y a tout un tas d'étapes en fait, de fabrication des flèches, des pointes de flèches, il y a aussi celle du poison. Et en fait, c'est un processus assez particulier en fait, où celui qui est responsable de la fabrication du poison, c'est un acte sacré. Il y a un acte que j'adore par-dessus tout, en fait, parce que ça se passe dans la brousse au Niger. Donc là, c'est dans une partie qui est très désertique. Voilà, il n'y a que du sable, en fait, pratiquement. Et puis au lointain, évidemment, la brousse très sèche. Et en fait, cet homme va délimiter en fait, un cercle avec un bâton dans lequel au milieu duquel, en fait, il va réaliser ce poison.
Comme une sorte de rituel.
C'est un rituel, voilà, mais c'est un cercle en fait que personne ne pourra franchir. Donc là, on est dans le domaine du sacré, dans un acte qu'ils appellent eux grave. Voilà, donc ça fait partie des choses graves. Voilà.
Et vous avez choisi ce sujet-là, cette photo-là, parce que vous parlez de paradoxe, une alchimie entre quelque chose, une matrice qui donne la mort.
C'est-à-dire qu'en fait, l'objet qui m'intéressait dans cette photo, c'est un objet évidemment que je n'ai pas avec moi, que je n'ai pas pu apporter, mais c'est un objet qui est un objet avec lequel j'ai une certaine affinité, c'est ce pot de terre qui va recevoir tous les éléments en fait, qui vont faire une alchimie à laquelle va résulter ce poison. Justement, l'idée qui était derrière, c'est que le poison, c'est un élément très très vivant, très virulent, et le paradoxe, c'est qu'il donne la mort. Voilà, mais c'est vivant.
Et pour rester dans les fauves, eh bien, vous avez choisi une senteur fauvique, elle aussi.
Tout à fait. Dans ce cadre-là, lorsque les chasseurs vont se mettre en quête de trouver ce lion, c'est un lion, en fait, qui n'est pas tué par hasard. C'est qu'en fait, il y a un accord entre les tribus et la brousse. Voilà. Et en fait, cet accord n'a pas été respecté par le lion, parce que le lion, en fait, c'est une tribu de bergers. Ce lion, en fait, on le tolère dans la mesure où il tue des animaux qui sont déjà malades. Seulement, cette fois-ci, en fait, il s'est attaqué à un animal qui n'était pas malade. Donc, en fait, il y a des comptes à rendre, voilà, de cette tribu envers ce lion-là. Et ce lion, en fait, il a son territoire et dans la brousse et dans ces herbages qui sont des herbages très sèches. Au Niger. Il faut imaginer des buissons, en fait, des buissons, en fait, pas du tout verts. Hein, ce sont des bois qui sont très vivants, mais qui sont gris. Et très resserrés les uns aux autres, en fait, le lion, lui, il va établir sa tanière là-dedans. Et en fait, pour se faufiler jusqu'au milieu de l'endroit où il va se poser, il laisse sur le passage des poils, voilà, qui s'accroche en fait à ces buissons.
Qui forme cette odeur si particulière.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a une odeur très particulière qui sont justement le résultant de ce poil de lion, de fauve qu'on connaît en fait, qu'on peut imaginer. Parce que quiconque a été dans un zoo, en fait, s'est approché d'un lion, connaît cette odeur en fait, fauve. Et celle du buisson, voilà.
Thierry-Émile Serle, quel est le rapport avec vous et ces deux éléments-là que nous avons dévoilés en entrée de jeu?
C'est un rapport, on va dire, à quelque chose qui est des racines, des rituels ancestraux, une forme de vie tribale qui me parle, on va dire.
Vous qui êtes né à Pantin, pourtant.
Eh oui.
Vous avez vécu au Niger?
Non, je n'ai pas vécu au Niger. J'ai vécu le Niger au travers des films de Jean Rouch, en fait. C'était un réalisateur ethnologue qui a réalisé des films justement sur des tribus du Niger, du Mali, entre les années 40 et les années 70, 1940-1970. C'est lui qui est à l'origine du cinéma ethnographique, en fait.
Vous parliez d'actes sacrés tout à l'heure. Vous êtes plasticien. Est-ce que la façon de créer est un acte sacré?
Oui, tout à fait, justement. L'œuvre qui va résulter, justement, pour moi, c'est une œuvre qui se place un peu dans le monde du chamanisme, où on pourrait dire que c'est une œuvre d'intercession entre le monde vivant et le monde du non-visible, celui des ancêtres, celui des esprits, celui des dieux.
Alors, nous allons découvrir un premier morceau de musique avant de nous envoler pour le Japon.
Bien.
Et ce premier morceau de musique, eh bien, il a déjà un rapport puisque c'est un compositeur contemporain vietnamien. Il s'agit de
Isang Yun.
C'est Thierry-Émile Serle qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Thierry-Émile Serle est plasticien et il vient de choisir ce solo pour flûte numéro 5 de Isang Yun. Pourquoi avoir choisi ce morceau?
Alors en fait, Isang Yun, c'est un compositeur vietnamien qui travaille avec ensuite des procédés qui sont des procédés de création occidentale de musique contemporaine. Mais en fait, on trouve dans sa musique quelque chose qui est vraiment en rapport à ses origines, à son terroir, on va dire, voilà, du Vietnam. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'association des deux, justement, de l'Asie et de l'Occident dans cette composition musicale. Il y a une vibration purement asiatique, mais il y a une construction justement qui est abstraite, on peut dire, même si le champ musical est en tout point abstrait pour moi, voilà, dans mon idée. Voilà, c'est surtout en termes de vibrations, de couleurs, de senteurs que peuvent dégager justement, voilà, c'est cette composition musicale.
Vous avez choisi ce premier objet. Il s'agit d'une peinture que vous avez réalisée. Et je vais vous demander d'abord de nous la décrire parce qu'elle est particulièrement riche, même si c'est un petit format sur papier.
Il s'agit d'une peinture que j'ai réalisée en fait à Okinawa, au Japon. C'est une peinture en fait qui représente un chat dans une posture très conventionnelle et classique en fait au Japon, à Okinawa.
C'est-à-dire, donc c'est le chat qui est assis
Le chat
sur son train arrière,
assis sur son train arrière, regardant le spectateur.
avec les
Voilà.
deux pattes avant bien droites,
Des pattes avant bien
et
droites,
qui nous fait
voilà, et qui
face.
nous fait face, exactement.
Et au loin.
Et au loin, en fait, j'y ai associé quelque chose qui est de ce que je voyais au quotidien là-bas au Japon. C'est un paysage d'îles dans le Pacifique. Ce sont des petits îlots qu'on appelle Hanari-jima. Hanari, ce sont des îlots, c'est pas le nom d'une île, c'est pas le nom d'un îlot, c'est le nom en fait d'un type d'îlot. Voilà, en fait, ce sont des îles qui font la continuité d'une île un peu plus grande. Donc c'est comme des petits récifs, on va dire, quelque part. Qu'ont une vocation particulière, les Hanarijima avaient comme vocation de recevoir le corps des défunts. Donc on dit déposer le corps des défunts pour qu'il se décompose naturellement, on va dire, voilà. Donc c'était à peu près entre le Moyen Âge et puis la Renaissance, on va dire, actuelle.
Et cette peinture est encadrée avec un papier très particulier qui vient de là-bas.
C'est un papier japonais qui est un papier dentelle dans les dominantes de teintes qui sont dans les jaunes roux clairs. La peinture elle-même est réalisée dans des tons bruns. Donc c'est le fond, le décor, tout le paysage en fait avec les îles Hanari. C'est un monochrome brun dans les bruns clairs. Le chat lui-même est réalisé en fait blanc avec des ombrés en brun clair également.
Alors, quel rapport vous avez, quel rapport vous entretenez avec le Japon où vous avez vécu plus de 3 ans? Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas? Quand je vous pose cette question-là, par exemple, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit?
Le Pacifique et la Terre. Quand je suis arrivé à Okinawa, ça s'est pas immédiatement déclaré. C'est au bout d'une petite année où il y a eu quelque chose qui me parlait très très fortement sur cette terre. Déjà, il y a eu un moment qui était très très étonnant, hein. Parce qu'en fait, moi j'habitais sur l'île centrale d'Okinawa, mais Okinawa, en fait, c'est un archipel qu'on appelle le Ryukyu Kingdom, c'est l'archipel du royaume de Ryukyu, et en fait, entouré d'autres îles, et là où on se rend compte qu'on est en plein Pacifique, c'est quand on va sur ces petites îles, justement. Et c'est quelque chose d'assez difficilement descriptible, mais c'est fort comme image. On sait qu'on n'est pas ailleurs, on sait qu'on est là, en plein Pacifique.
Quelle relation vous aviez avec les habitants?
Ce sont des gens qui sont venus directement à moi, qui viennent à nous. C'est pas du tout l'image qu'on peut avoir, par exemple, de la population japonaise à Okinawa. Ce que, si on peut dire, ce sont les Marseillais du Japon. Ce sont des gens qui ont un contact très facile et qui sont très curieux, en fait. Voilà. Et le rapport, c'était un rapport de curiosité de leur part.
Vous parlez japonais?
Je me suis mis à parler japonais sur place directement. C'était en fait une évidence. Voilà, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres langues qui sont possibles pour communiquer avec la population sur place. Et puis en même temps, c'était par évidence, en fait, par respect et par nécessité aussi également pour travailler là-bas.
Et pourquoi êtes-vous allé là-bas?
En fait, j'ai rencontré une femme qui est devenue mon épouse, qui est japonaise, mais japonaise du Japon même, et qui avait trouvé un poste, qui est musicienne en fait, qui avait trouvé un poste à l'université d'art d'Okinawa. Et donc en fait, je l'ai suivie dans ce déplacement. Donc pour moi, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout calculé. J'ai suivi, voilà.
Nous allons avoir une deuxième pause musicale que vous avez choisie, Thierry-Émile Serle, et ensuite nous allons revenir en France pour découvrir à nouveau des photos et des senteurs. La musique que vous avez choisie, il s'agit des Divas de Shanghai.
Tout à fait.
Et c'est une musique des années 50.
Oui.
Pourquoi avoir choisi cette musique ?
Eh bien, en fait, dedans, ce sont des divas qui chantent en chinois, bien sûr, mais avec un mode musical très occidental. C'était la mode, en fait, des passodobles à l'époque. C'était la mode de la musique latine. Et en fait, c'est le mélange des deux qui me plaît beaucoup. Voilà. Et cette appropriation, justement, des Chinois, de ce monde, de ces modes occidentaux. Et la fusion des deux était très, très parlante, je trouve très sensuelle aussi.
Thierry-Émile Serle, qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Thierry-Émile Serle est plasticien et nous parle de son travail à travers les choix qu'il a faits. Comment trouvez-vous l'inspiration, Thierry-Émile ?
Énormément au travers du cinéma. L'inspiration fait effet boule de neige. Depuis la première peinture que j'ai réalisée jusqu'à aujourd'hui.
C'était quand la première ?
En 1991. J'étais étudiant, j'étais à la résidence universitaire d'Antony, en région parisienne. Et en fait, c'était suite à un cours d'histoire de l'art.
Vous avez une maîtrise d'histoire de l'art qui a suivi avant un parcours très riche, puisque vous avez fait une école d'ébénisterie et une école de stylisme-modélisme. Mais revenons à l'histoire de l'art et à cette inspiration.
L'inspiration, en fait, elle est venue d'un seul coup comme un flash suite à un cours, en fait, de Michel Frantisi. C'était un professeur que j'avais à l'université de Nanterre, qui était spécialiste, en fait, de l'avant-garde russe. Et ce jour-là, en fait, on avait abordé un peintre qui s'appelle Casimir Malevitch. Voilà. C'est un peintre abstrait qui utilisait, en fait, là, on étudiait ce qu'on appelle le son courant qu'il avait créé, qu'on appelle le suprématisme. En fait, on veut dire, en gros, la peinture représente des éléments géométriques qui se superposent les uns aux autres, sans profondeur, sans épaisseur, juste simplement des aplats, dans des couleurs différentes. Bah, suite à ce cours-là, j'ai eu tout de suite envie de peindre. Donc je suis vite allé acheter une planche de bois, de la peinture acrylique, des pinceaux, et j'ai commencé à réaliser première chose qui n'avait rien à voir, en fait.
Vous utilisez des supports très particuliers, souvent. Vous faites, j'allais dire, de la peinture en relief, en quelque sorte, mais grâce au support que vous allez pouvoir tendre, par exemple, pour avoir des transparences avec de la lumière derrière. C'est vraiment très original.
J'utilise le PVC transparent souple. En fait, on appellera ça une toile cirée, une nappe. Donc, en fait, la transparence me permet de travailler sur le recto et les versos, donc devant et derrière. Pour récupérer, quand je travaille sur l'arrière, je récupère des motifs sur le devant avec lesquels je vais jouer. en fait, voilà, en gardant des effets complètement transparents où je n'interviens pas. Donc la lumière passe au travers, que ce soit la lumière artificielle ou la lumière naturelle, ça dépend si on le place devant une fenêtre par exemple. Oui. Et les matériaux que j'utilise, donc finalement, c'est du papier que je colle, mais des peintures que je réalise également, des peintures figuratives. Il va y avoir aussi également l'utilisation de la couverture de survie. Voilà.
Cette couverture de survie, elle est dorée d'un côté
Doré et argenté.
et argentée de
Voilà.
l'autre.
Donc on peut jouer avec les deux en fait, les deux couleurs, voilà qui en ressort. Mais à l'origine, en fait, quand j'ai commencé à peindre, j'ai peint sur bois. Et très vite, j'ai commencé ce qu'on appelle à scarifier le bois. C'est-à-dire qu'en fait, utiliser des outils contondants pour graver, pour tracer dans ce bois, et je peignais par-dessus avec. Voilà. J'utilise le mot à bon escient de scarification, parce qu'en fait, déjà dès lors, j'étudiais l'art d'Afrique, et dans l'acte de scarification sur les peaux humaines, justement, il y avait quelque chose qui me parlait.
Votre travail, Thierry-Émile Serle, on peut le voir non pas sur un site, mais sur Facebook, puisque vous avez une page Facebook. Et puis on va pouvoir le voir en vrai ici aussi au Havre, bientôt.
Oui, à partir du 18 décembre jusqu'au 24 décembre, donc j'expose des œuvres que j'ai réalisées à Okinawa au Japon, dans un lieu qui est une boutique éphémère qui s'appelle À Côté et qui est dans les rues piétonnes du Havre, en fait, à côté de l'Étable, qui est un voilà bar, restaurant très connu dans les rues piétonnes.
Et vous allez exposer des œuvres qui représentent quoi, qui sont... Est-ce qu'on peut en décrire une?
Bien sûr, parmi ces œuvres que je représentais sont des œuvres figuratives. En fait, moi, quand je suis arrivé à Okinawa, j'ai tout de suite laissé tomber mon travail que j'avais fait, un travail contemporain quand j'étais à Paris, pour en revenir à des thèmes qui sont la faune, la flore, les paysages, des portraits de personnes travaillés sur papier Japon, là-bas sur place. Donc, par exemple, moi, dans les parages de l'endroit où j'habitais, il y avait un château qu'on appelait le château de Chully, qui s'appelle toujours le château de Chully, qui est un château d'apparat où en fait il y avait l'établissement politique du royaume de Chully, en fait. Voilà, du royaume d'Okinawa. Donc c'est un château très en couleur, tout en bois, qui a été reconstruit après-guerre parce qu'il a été complètement rasé pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, l'une de ces peintures, c'est une peinture qui est vue un peu de loin, où je vois le château de loin. Et en fait, avant d'accéder à ce château, il y a une succession de portes qu'on appelle des torii. Et donc voilà, en fait, il faut s'imaginer cette succession de portes colorées pour arriver à voir en arrière-plan la bâtisse imposante de ce château de Chully. Qui est, en fait, si en fait le toit, c'est un toit qu'on peut communément imaginer toit de pagode, mais qui est réalisé en tuiles de briques rouges, avec en fait des structures portantes en bois. Tout le restant du bâtiment est en bois sombre.
Vous avez choisi des photos. Et là, ici, nous avons sous les yeux une série de photographies que vous avez faites, vous. Il s'agit d'un arrêt sur image de 6 photographies réalisées rue de Rennes.
Tout à fait. À l'époque, quand j'étais à Paris, j'aimais bien sortir une fois que ma fille était couchée, que la maison était calme. Je prenais la voiture avec une caméra et j'allais dans Paris. J'étais en région parisienne, hein, j'étais à Ivry-sur-Seine. Et en fait, je déambulais dans les rues de Paris avec la caméra pour prendre en fait des images nocturnes. Et là, en fait, il s'agit de la rue de Rennes, où c'est le bas de la rue de Rennes, donc à partir de Saint-Germain-des-Prés, où on voit au loin en fait la tour Montparnasse. Et donc c'est à la nuit tombante, donc vraiment à la période de l'aurore, où il y a ces éclairages de voitures en fait qui descendent de la rue de Rennes.
C'est assez monochrome finalement, hein, puisque le premier plan est brun-gris, et puis la tour au fond est légèrement bleutée, et il y a un rappel des phares des voitures en premier plan, pareil, légèrement bleutée, il n'y a pas de jaune. Et pourtant, il y a une lumière très particulière, un rythme entre ces 6 images, comme si c'était un peu une planche de BD.
Tout à fait. En fait, comme c'est au départ, c'est tiré d'un rush, ce qu'on appelle un rush, en fait, c'est le film, hein, le film court qui a été réalisé. Ensuite, moi, à partir de ce film, je coupe dedans en faisant des prises de vue sur l'écran. Donc, je fais des arrêts sur image que je photographie. Donc, je photographie l'écran. Et ce qui me permet, en fait, d'avoir différents instants, toujours avec ce même cadrage, mais avec la lumière de ces voitures, qui finalement transforme totalement, on va dire, le graphisme, quelque part, de la partie basse de l'image. Voilà, avec des lumières très fortes.
Alors, vous auriez pu choisir, Thierry-Émile Serre, le parfum, l'odeur plutôt, l'odeur des voitures et de la circulation, mais en fait, pas du tout. Vous avez choisi une odeur très particulière, très intime. Et on s'est interrogé un peu avant de savoir si on allait en parler à l'antenne. Et puis, oui, parce que c'est une odeur authentique, une odeur non contrôlée. Il s'agit du parfum intime.
Le parfum intime de l'instant de l'acte d'amour.
Pourquoi avoir choisi ce parfum si particulier que tout le monde connaît?
Oui, enfin que tout le monde, je sais pas.
Qui parle à chacun,
c'est ça que je veux dire. Qui peut parler certainement à chacun.
C'est toujours différent, mais en tout cas, qui parle à chacun. Les personnes qui nous écoutent à cet instant savent de quoi on parle.
En fait, je l'ai choisi parce qu'il n'y a pas de recherche à faire. On ne le recherche pas. Il est évident, il vient à nous, il se présente à nous dans toute sa nudité. Dans toute sa vérité, c'est un parfum vrai, c'est un parfum qu'on n'a pas créé. Voilà, c'est quelque chose, moi j'aime bien dans les senteurs, ce sont des senteurs qui sont, qui viennent à nous, qui sont plus intimes, au plus proches de nous. J'aurais pu choisir un parfum d'odeur de cuisine, un parfum de fleurs, mais là, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc ce que j'aimais bien dans ce parfum-là, ce que je voulais dire, amener, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler.
La dernière image que vous avez choisie, c'est une photo de Robert Plossu, issue de son livre « Voyage italien ». Et Robert Plossu a exposé au MUMA du Havre il y a quelques années. Et vous avez sélectionné cette photo, et nous sommes à Milan en 2009.
En fait, à partir de ces photos, j'ai construit une histoire. C'était comme une évidence, c'est une histoire de l'enfance. C'est un moment privilégié entre la mère et son enfant. Moi, je me suis projeté enfant, on va dire un enfant de 5-6 ans. Voilà. C'est en été, il fait chaud, il y a des bruits. Alors j'ai choisi l'Italie parce qu'en fait, on associe à l'Italie des bruits qui sont des bruits d'enfants, des enfants, des cris d'enfants dans la rue, mais aussi ces senteurs de pain parasol, voilà, la chaleur.
La photo représente juste une façade, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent. Il n'est pas du tout question d'une mère et de son enfant. C'est juste cette façade qui dévoile des fenêtres derrière lesquelles vous vous trouvez finalement.
En fait, j'ai imaginé une scène, en fait, comme cet enfant, il fait très chaud, c'est en été, il est sorti sur le balcon, et sa mère est dans les pièces en arrière-plan, et un moment donné vient le rejoindre. Et en fait, il y a une espèce de révélation d'évidence, quand cet enfant qui est assis par terre sur le balcon frais, qui voit sa mère debout, très grande, à côté de lui, en fait, c'est l'amour qu'il a. D'un seul coup, il voit la beauté de sa mère et c'est comme une évidence, voilà.
Et cet amour, il est toujours présent, bien sûr.
Oui.
Eh bien, nous terminons cette émission sur cette belle image qui parlera certainement à beaucoup de nos auditeurs. Merci Thierry-Émile Serle d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui dans Portrait et de nous avoir amené dans votre vie, dans tous ces éléments, dans tous ces voyages.
Merci infiniment à vous. J'étais très heureux d'être là aujourd'hui et de vous présenter justement ces éléments qui me sont très très proches, très intimes.
C'était Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet. Chances are, 'cause I wear a silly grin.